Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Café des Sports. Surprise, ça n'est pas la dame pendant qu'elle épuise Chaz et RTT. Nous, ce sont des tas de sujets que nous avons décidé d'épuiser en concertation depuis ce matin avec le Réfé. Bonjour Réfé.
Bonjour Olivier.
On fait comme les bons élèves hein, ici Réfé, on laisse le téléphone portable à côté, on le consulte pas, ne vous prenez pas pour Frédéric Coula.
Il y a qu'un ami qui a le droit.
Non, Frédéric Coula aussi en général. Du coup, pas le temps de niaiser, programme chargé. On commence par l'affiche du week-end et je blague à peine. Finale de la Coupe de la Ligue en France, en direct et en intégralité sur RFI, s'il vous plaît. Strasbourg-Guingamp, c'est à Lille que ça va se passer. Bon d'accord, vu comme ça, ça claque pas, mais pour une fois que le PSG n'y est pas et donc que l'on ne connaît pas le vainqueur à l'avance, ça vaut sûrement le coup d'écouter, voire de regarder. Et puisque ça se passe en France et que le PSG, on l'a dit, n'y est pas, eh ben, on en parlera quand même du Paris Saint-Germain à travers son entraîneur, l'Allemand Thomas Tuchel, qui prolongerait d'un an son contrat, même si le club n'a pas encore tout à fait confirmé, on le sait, bien ou pas. Il y a peut-être débat ou pas. Direction l'Angleterre ensuite avec là aussi un entraîneur à l'honneur ces dernières 48 heures. Ole Gunnar Solskjaer, venu pour dépanner et qui finalement va rester intronisé manager de plein droit de Manchester United à la vue de ses bons résultats, logique ou pas. Deux entraîneurs à l'affiche, ça vous va Carlos Bianchi ou pas?
Très bien.
Bonjour en tout cas, merci d'être
pourquoi
là.
Pourquoi pas?
Et quitte à être de l'autre côté de la Manche, autant y rester avec la vraie affiche du week-end dimanche, Liverpool-Tottenham. Je sais que Carlos déjà va regarder. Le leader de Première Ligue contre le troisième de sacrés attaquants sur le terrain. Bref, sympa a priori à regarder. C'est ce que vous ferez, Rémy Ngono, ou pas?
Je le ferai, mais surtout je n'utiliserai pas le téléphone comme Xavier Barré l'utilise actuellement sans avoir un carton jaune.
Allez, boum. Bien vu Rémy, bien vu. Allez, paf, sur le bec de Xavier Barré. Après tout ça, place au football circus. Sa Coupe du Monde à 48, sa CAN à 24, sa nouvelle Ligue des Champions à 14 journées de phase de poule au lieu de 6, son Mondial des clubs en même temps que la CAN, bref, du grand n'importe quoi, mais bien sûr du pognon, des pépettes, des brousoufs, de l'oseille, du fric, de la thune à s'en mettre plein les fouilles, les poches ou les sacoches. Trop de foot peut-il tuer le foot? Xavier Barret, vous avez 30 minutes pour argumenter ou pas en laissant votre téléphone.
Ça y est, le tweet est envoyé avec la photo de toutes les personnes autour de la table, donc je pose le téléphone et on va répondre à ça très vite.
On autorise nos auditeurs à aller sur Twitter, mais quelques minutes ou pas. Après tout ça, on terminera par les cartons, parce que c'est comme ça, c'est une habitude. Louis Lafargue, Pierre-Olivier Guérin, Laurent Salerno sont là ou pas, mais on y va. Ambiance goguette, ambiance quoi? Galette saucisse, messieurs. Mais on oui. va parler de Strasbourg-Guingamp. Et je vois Carlos Bianchi qui me regarde depuis 3 minutes et qui se dit je me suis trompé d'émission. Ça, bon, la galette ça va aller, Carlos, vous restez quand même?
Je vois que le soleil, ça vous donne une oui vitamine, ah, la joie.
Mais
ça me fait évidemment plaisir. Franchement, ça me fait plaisir de vous voir comme ça.
C'est gentil. Alors Strasbourg-Guingamp, donc, affiche improbable mais plutôt sympa de la finale de la 25e Coupe de la Ligue. C'est demain à 20h05, temps universel du côté de Lille, on l'a dit, au commentaire, tiens, pour RFI, on le mentionne. Les amis Antoine Grenier et Cédric De Oliveira, c'est leur choix, et un peu aussi le vôtre, hein, Réfé, après tout, c'est vous qui décidez. D'habitude, il y a le PSG qui gagne, en tout cas les 5 dernières. Globalement, on a eu 3 vainqueurs sur les 10 dernières années. Marseille 3 fois, Saint-Etienne qui est passé par là. Et puis depuis, c'est Paris. Alors, ça change? Est-ce que c'est bien?
Ah bah oui, voir un nouveau vainqueur au palmarès de l'épreuve, même si Strasbourg l'a déjà gagné par le passé, oui, c'est bien, bien sûr, évidemment. Maintenant, c'est vrai que, quitte à avoir une autre affiche, on aurait peut-être préféré un Lyon-OM, ou un, même si Bordeaux est pas flamboyant cette saison, un Bordeaux-Rennes, quelque chose comme ça. C'est vrai que Guingamp-Strasbourg, un promu et un club menacé de relégation, forcément, ça pèse moins qu'une affiche de deuxième ou de troisième de Ligue 1. Maintenant, il faut reconnaître deux choses, c'est que ce sont deux clubs qui ont un vrai soutien populaire, et que donc le stade de Lille sera plein, et ça c'est quand même un vrai succès pour la Ligue, alors que actuellement les droits de la compétition pour les années à venir ne sont pas vendus, n'ont pas trouvé de diffuseur en France auprès des différentes télévisions.
Carlos, vous m'avez dit, je regarderai dimanche Liverpool-Tottenham, on en parlera tout à l'heure. Demain soir, vous êtes devant votre télé ou au théâtre comme chaque samedi?
Non, je suis au restaurant Heller.
Et voilà, c'est ça. Carlos, dans sa vie, il y a le théâtre et le restaurant.
À 200 mètres de l'air de Triomphe, je mange un poulpe extraordinaire. Je peux pas savoir.
Bon, alors donc pas de finale de Coupe de la Ligue pour vous.
Non, je la regarderai si tu veux.
Mais écoutez, RFI, vous pouvez manger sans regarder et vous écouter.
C'est un ancien de Strasbourg qui vous parle.
Ben, mais oui.
Je suis pour le Racing.
Vous êtes pour le Racing? Oui. Est-ce que ça vous plaît, une affiche comme celle-là?
Moi,
change un peu
moi,
du
oui,
PSG.
Parce qu'écoutez, il faut avoir du respect pour le football. Guingamp, il a battu Paris Saint-Germain.
Mais oui.
Et oui.
Au Parc des Princes.
Et au Parc des Princes. Alors, il faut avoir du respect. On dit oui, on voudrait tous les finales, Real Madrid-Barcelone, Liverpool-Tottenham.
La Coupe de la Ligue en France, c'est mal barré, mais
non, mais je dis, mais il faut accepter. Si on arrivait en finale, c'est parce qu'ils en étaient plus forts que les autres. C'est fini, on arrête là.
Préfet? Ça vous fait triper.
Il a raison, parce que sinon on ferait un peu comme certains ont la tentation de faire à un niveau beaucoup plus international, presque des compétitions à la carte. On dit on va faire cette année la finale Lyon-Marseille et ça va cartonner. Et on se fiche des résultats précédents. Non, c'est comme ça. Strasbourg, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont moins bien, mais ils ont connu un moment de la saison très très performant. C'est deux équipes très combatives. Et je pense que ça va faire une belle finale.
Et deux régions qui aiment le football. Parce que je peux t'assurer.
Il y aura du Breton à Lille et il y aura du Strasbourg.
Je connais pas la Bretagne, disons, non, d'un point de vue footballistique.
De l'Alsace.
Mais l'Alsace, je peux t'assurer, c'est l'Alsace, tout le monde, il parle de football, il vit au football, il vit autour du club.
Et la Bretagne, on le sait aussi.
C'est un vrai succès pour Strasbourg de se retrouver en finale de cette Coupe de la Ligue, parce qu'on rappelle que le club était descendu très bas dans les divisions, puisqu'ils avaient été en situation économique. Voilà, ils sont repartis de même en dessous. Ils sont remontés très vite, avec Marc Keller comme tête d'affiche, président de ce club, ancien joueur et président. Et donc, ils ont réussi à construire très vite, grâce au soutien populaire. Il faut rappeler qu'en national, ils jouaient des matchs devant 10 000 personnes. Et donc là, grâce à ce soutien populaire, le stade de la Méno toujours plein, ils ont réussi à remonter et les voilà en finale de la Coupe de la Ligue. Donc,
et 10e de Ligue 1, hein, c'est une belle, belle saison pour Strasbourg, pour le moment, même si à un moment
on
espérait un petit peu mieux. Mmh. On rappelle, Strasbourg, ce sera la troisième finale. Les deux premières ont été gagnées, 97 et 2005. Pour Guingamp, c'est une première en Coupe de la Ligue. Ils ont gagné la Coupe de France il y a peu. Un mot, on vous a pas entendu encore, Rémy Ngono, c'est ballot.
Il est venu, Rémy.
De toutes les façons, lorsque j'ai annoncé sur ma page Facebook que la finale de la Coupe de la Ligue, ils ont dit c'est la Ligue 2. Beaucoup m'ont posé cette question parce que même les diffuseurs, ils ne mettent pas ces matchs-là, ils mettent Paris Saint-Germain ou autre. Donc, rarement, on peut entendre parler de Strasbourg, on peut entendre parler de Guingamp. Comme Xavier Barré disait, oui, c'est une équipe qui était en national quand même en 2016. En national. Et puis, ils vont en Ligue 2. Et on se rend compte quand même que c'est vraiment des équipes qui, avec de très petits moyens, vous réunissez le budget de Strasbourg, c'est-à-dire que 36 millions, plus celui de Guingamp, c'est 28 millions, mais vous obtenez le prix d'achat de Di Maria, qui est au banc au Paris Saint-Germain. Donc, en fait, moi également, j'aimerais assister quand même à des matchs beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus bandants, qui peuvent aussi attirer d'autres gens à regarder le championnat français. Mais quand on écoute quand même à l'extérieur que c'est Strasbourg qui va jouer la Coupe de la Ligue avec Guingamp et que ces équipes vont se retrouver sans l'ombre d'un doute à la Coupe de l'UEFA, bien évidemment, à la Ligue Europa, on se dit quand même que c'est tout au moins une façon de démontrer que le football, le championnat français perd beaucoup de sa valeur et que n'importe qui peut se hisser comme ça à la hauteur, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus véritablement ce qu'on peut dire de grands clubs français.
Oui, mais c'est ce qui fait le charme du sport en général, de ce sport en particulier, c'est le charme de la coupe.
Complètement. Strasbourg a éliminé en demi-finale les Girondins de Bordeaux, qui l'ont également gagné trois fois, je crois, cette Coupe de la Ligue par le passé, donc qui espérait sauver sa saison avec cette Coupe de la Ligue et qui a perdu, avec d'ailleurs un doublé de Motiba au passage, hein, qui a quand même le Sud-Africain qui a marqué deux des trois buts de Strasbourg lors de ce match. Donc Strasbourg est arrivé là à la régulière, c'est une équipe qui a énormément d'enthousiasme et alors effectivement après techniquement c'est des joueurs, beaucoup de joueurs qui montent de D2, donc ils ont pas tous un niveau international, mais il y a une énergie incroyable. Du côté de Guingamp, c'est un petit peu la même chose. On rappelait qu'ils ont éliminé le PSG en s'imposant au Parc des Princes. Ouais. Ils ont éliminé et Monaco.
Et par la suite, il faut aussi préciser qu'ils ont eu la plus grosse fessée du PSG
en championnat. Oui, mais ils ont éliminé Monaco au tir au but, effectivement, à Monaco. Donc, ils ont joué cette compétition à fond, là où d'autres, effectivement, ne la jouent pas à fond. Donc, ils sont en finale. Et ben, c'est logique.
Je suis quand même étonné par les propos de Rémi, parce qu'il oublie que des surprises, il y en a tout le temps. L'année dernière, quand même, les Ganes avaient sorti en Coupe d'Espagne le Real Madrid des Zidane, qui allait gagner la Ligue des Champions quelques mois plus tard. Ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on a Villarreal en quart de finale de la Ligue Europa. Ils sont relégables en Liga. Donc, des
surprises, c'est le charme de la
Coupe. Il y en a tout le temps et pas seulement en France.
Et Guingamp essaiera donc de sauver une sale saison jusqu'ici. On rappelle que les Guingampais.
Oui,
Rémi.
Laissez-moi
continuer et après je reviens vers vous. Le patron, encore une fois, c'est celui qui a les feuilles devant lui. On rappelle que Guingamp est 18e. C'est la première fois, je crois, depuis le début de saison qu'ils ne sont pas relégables, mais barragistes. L'idée est bien de sauver quand même une saison compliquée. Je vous propose, avant de vous redonner la parole, d'écouter le sage Jocelyn Gourvennec.
Une saison qui est longue dans le bas du classement, et on a réussi à se bagarrer pour sortir la tête de l'eau et pour pouvoir préparer au mieux notre finale. Il y a une finale à jouer, c'est un moment magnifique de pouvoir jouer une finale dans une carrière, qu'on soit joueur ou qu'on soit entraîneur. Et puis, une fois que la finale sera jouée, on rebasculera dans le championnat pour aller chercher notre maintien. Par rapport à la dynamique de la saison, par rapport à ce qu'ont fait les Strasbourgeois, en étant aujourd'hui dans le top 10 en France, ils ont une petite avance. Ils sont, je pense, favoris de la finale par rapport à la construction de leur saison.
Oui, ils sont favoris, logiquement, de la finale. On a un duel d'entraîneurs, hein. L'intellectuel Gourvennec et, bon, moi, c'est pas très gentil, mais j'ai envie de dire la pleureuse Loret, parce que c'est vrai qu'il se plaint tout le temps, l'ami Loret.
Bah, vous dites, on avait une opposition de joueurs aussi, puisque Loret était un milieu défensif, effectivement, qui mettait la semelle, alors que Gourvennec était un véritable meneur de jeu, un très beau joueur, passé notamment par Nantes. Donc, à l'arrivée, effectivement, on n'a pas tout à fait la même philosophie de jeu. Le résultat, quand même, c'est que cette formation de Guingamp, qui était relégable, vous l'avez rappelé, Olivier, qui est maintenant barragiste en Ligue 1, alors la saison n'est pas terminée, mais avec cette Coupe de la Ligue, finalement, ils ont trouvé une façon de rebondir pour continuer jusqu'à la fin de saison et pour vraiment sortir de la tête de l'eau. Et je pense que Gourvennec, même si avant Antoine Comboiré avait fait beaucoup de travail avec des moyens compliqués, puisque Guingamp a quand même perdu beaucoup de joueurs importants l'été dernier, eh bien Gourvennec a réussi à relancer ce club qu'il connaissait bien, puisqu'il était déjà entraîneur avant. Donc, amener l'en avant à ce stade de la compétition, c'est quand même un sacré clin d'œil. Il faut rappeler que vous faisiez allusion en présentation aux deux finales de Coupe de France qu'ils ont jouées ces dernières années, à chaque fois contre Rennes, et à chaque fois ils ont gagné dans un stade de France qui était plein, dans une ambiance Bignou et galette saucisse, effectivement. Mais c'était sympa, moi j'y étais, et je peux vous dire qu'effectivement, ce sont deux publics qui vont vraiment donner à cette finale toute la dimension qu'elle mérite.
On rappelle que Guingamp, on l'a dit, était pour la première fois barragiste. Le championnat, globalement, le bas de championnat va concerner trois équipes, hein, parce qu'il y a un petit trou. Amiens 17e à 7 longueurs d'avance sur Guingamp. Il y a Guingamp, Dijon, Caen qui vont se battre pour une place de barragiste. Vraisemblablement, il reste 9 journées, rien n'est fait, mais c'est la physionomie. Bon, alors donc, ce Strasbourg-Guingamp, je note autour de la table, il y en a un sur deux qui va regarder. Mais sinon, encore une fois, soyez à l'écoute.
On va tous regarder.
Bien sûr.
Non,
Réfé. Ou écouter.
Non,
ou
pas,
écouter.
Pas moi, Réfé. Je plaisante. Écouter, bien sûr.
Écouter sur RFI.
Qui? Je l'ai dit.
Antoine Cronier.
Et Cédric de Oliveira.
Et voilà.
20h05, temps universel.
Absolument.
C'est bien ça, Réfé. Ils prennent l'antenne un peu avant? Oui, 5 minutes avant.
5 minutes avant. Hein.
Bah alors on sera là. Parlons du Paris Saint-Germain qui n'y est pas. On l'a dit, qui a gagné les 5 dernières. On est content parce que quand il y avait le PSG en finale, en général, on connaissait le vainqueur. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. Il y en a rarement eu, en tout cas sur ces dernières finales. Tourelle prolonge. Est-ce que vous trouvez, alors on le sait depuis hier, il a donc prolongé d'un an, me semble-t-il.
Oui, il était sous contrat jusqu'en 2020, donc pour deux saisons. Il avait signé l'été dernier et là, il est prolongé jusqu'en 2021, ce qui donne un peu plus de lisibilité au projet parisien, du moins sur la durée, à condition bien sûr qu'il reste, parce qu'on se souvient qu'avant lui, notamment Laurent Blanc, avait été prolongé puis débarqué.
Oui, mais ça c'était la compétence des dirigeants qatariens. Est-ce qu'ils sont plus compétents maintenant? N'en est pas sûr. C'est prématuré de le faire prolonger maintenant ou c'est logique?
Non, ça dépend ce qu'ils pensent les dirigeants de Paris Saint-Germain.
Ouais, mais ça, on ne sait jamais trop ce qu'ils pensent.
Oui, ouais. C'est pour ça que nous on parlerait sans connaître la vérité. Je pense que si l'on fait résigner une année de plus, c'est pour la simple raison qu'il pense que l'avenir, il est avec eux, avec
mais
lui.
Moi, je pense que c'est logique qu'il le fasse maintenant parce qu'on approche du mercato. Si vous lisez la presse, vous voyez que tous les jours, on parle Mbappé sera sollicité par-ci, Neymar par-là. Donc, c'est un message qui s'adresse également aux joueurs pour les rassurer sur l'avenir du projet auquel, semble-t-il, ils adhèrent, celui de Thomas Tuchel. Donc, ça pourrait éventuellement réduire les velléités de départ de certains.
Rémi, c'est le début du plan pour contrer les velléités de votre club de cœur, le Real Madrid ?
Complètement illogique, cette prolongation, parce que cela veut dire, c'est la promotion de l'échec.
J'aurais une thèse dessus. Hein.
C'est la promotion de l'échec, parce que je vois tous ses prédécesseurs. Lorsque, par exemple, un monsieur comme Laurent Blanc, donc Xavier Barré voulait évoquer tout de suite, Laurent Blanc gagne contre le FC Barcelone, c'était en septembre. Il gagne le FC Barcelone 3-2. Et finalement, au match retour, le FC Barcelone bat le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que j'entends El Khelaïfi dire ? Il dit, c'est la dernière défaite de la saison. Nous sommes en décembre. Il donne l'ultimatum à Laurent Blanc. Et bien évidemment, il va remplacer Laurent Blanc qui, quand même, faut le dire, lorsque vous voyez certains succès tels que contre Chelsea, c'était un grand match, une démonstration contre José Mourinho, allait gagner en infériorité numérique. Et on prend un entraînement comme ça, on le débarque. Et maintenant, l'année dernière, l'autre, qu'est-ce qu'on voit ? On dit, Unai Emery, il a échoué en Ligue des Champions. Eh bien, il a quand même remporté 3 titres. On dit, on le débarque. Maintenant, on prend celui qui ne gagne presque jamais, puisque depuis 10 ans de carrière, il a commencé à Mayence en 2009, en tout et pour tout, dans son palmarès, c'est une Coupe d'Allemagne qu'il a remportée. Donc, c'est néant, absolument. Et puis, il vient, il perd à gauche, il perd à droite, et au moins, il nous prouve toute son incapacité notoire contre une équipe de Manchester United Beats. United Beats vient te battre à domicile par 3-1 et on te récompense. Je ne comprends pas. Il faut qu'on aille avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, dont le président, se faire consulter. Et il y a problème au Paris Saint-Germain.
Oui, ça on le sait. Cela dit, avec ou sans Tourelle, il y a un problème, quoi qu'il arrive.
Ils sont très bien avec le directeur sportif, tous les deux. L'entraîneur et le directeur sportif.
Non, ils se détestent. Mais Carlos, mais je vous vois avec votre petit. Là, vous
ah
chambrez, non.
Et alors, comment le président, il a renouvelé, il a prolongé le contrat ?
Oui, parce qu'on nous a annoncé dans la semaine que sans doute, ça n'allait, rien n'allait bouger au Paris Saint-Germain. Antero Henrique va rester, alors que tout le monde s'imagine, le verrait bien partir.
Et l'entraîneur, il reste.
El Khelaïfi, beaucoup le souhaitent voir partir, mais il va rester.
Alors, ça veut dire qu'il s'en va. Ça veut dire qu'il s'en va, Olivier. Il s'en va bien.
Non, ça veut dire que ça va.
El Jefe a très bien résolu.
Quand je dis qu'ils n'y connaissent rien.
Non, il a très bien expliqué la situation, notre chef. Il a dit, aujourd'hui, vous avez des rumeurs de transfert partout. Effectivement, le PSG a subi un échec cuisant en Ligue des Champions. Son objectif, c'est la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va pas tout changer comme ça. Surtout qu'on a deux stars, Mbappé et Neymar, surtout Mbappé d'ailleurs, qui sont convoités par d'autres clubs. Donc, la meilleure solution pour le moment, c'est de jouer la sécurité, la tranquillité, la sérénité et une forme de continuité. Donc, il joue comme ça. Dans l'immédiat, après, il sera toujours temps éventuellement d'apporter des modifications. Mais dans l'immédiat, il faut surtout pas paniquer.
Non, je suis pas d'accord avec Xavier Barré parce que c'est dit que ça joue la sécurité.
C'est étonnant.
La sécurité du Paris Saint-Germain, Olivier, la sécurité, elle doit être financière. Or, aujourd'hui, on voit que le Paris Saint-Germain n'a pas une sécurité financière. Pourquoi ?
Ah bon ?
Parce que le Paris Saint-Germain, je vais te dire, il n'a pas pu rentabiliser les deux recrutements de 400 millions d'euros.
Ah bon ?
Et oui, de Mbappé et de Neymar. C'est 400 millions d'euros.
Ils ont présenté leur compte, ils sont bénéficiaires.
Mais je vais te dire, bien au contraire, leur compte, ils disent justement qu'il leur faut 150 millions d'euros. Il faut relire ça. 150 millions d'euros. C'est pour
c'est
ça qu'ils
qui
veulent. C'est pour ça qu'ils doivent revendre
Neymar. Ils sont tranquilles avec le
Neymar,
financier, en tout cas.
Ils doivent revendre Neymar. Mmh. Ils disent qu'ils veulent vendre les Meunier, les Kunku et qu'on sort les Ressé parce qu'ils voudraient avoir au moins 60 à 80 millions. Certes, ils ont eu, par exemple, ce qu'on peut dire aujourd'hui, un sponsor maillot qui a 50 millions d'euros. Mais sauf qu'aujourd'hui, pour maintenir un type comme Mbappé, il faudrait, et d'ailleurs, la presse espagnole est en train d'annoncer que le Paris Saint-Germain est en train de vouloir lui proposer un salaire de 40 millions d'euros. Or, il a déjà un salaire de 20 millions, plus celui de Neymar, qui a 36 millions, ça fait 56 millions. Donc, le PSG se doit de vendre. Ce n'est pas Thomas Tuchel qui est une sécurité. Il faudrait vrai que parce que le PSG a force d'échouer plusieurs fois en Ligue des Champions, a perdu les voix qu'elle est, a perdu
Vous avez épuisé votre temps de parole sur ce sujet.
Non, c'est effectivement des éléments qu'on entend et qui sont pas faux. Effectivement, les salaires de Mbappé et de Neymar sont colossaux, mais dans les grands clubs, effectivement, bien, on paye aussi très cher Cristiano Ronaldo à la Juve, on paye très cher Messi à Barcelone, et on va payer très cher de nouveaux joueurs au Real Madrid. Donc, il y a effectivement un équilibre économique que le PSG travaille à trouver. Là, Raymond Gonneau ne développait pas ce point-là, mais ils ont des nouveaux partenaires économiques, un nouveau sponsor qui va arriver, un nouveau sponsor maillot pour les 3 ans à venir, le groupe Accor en l'occurrence, qui va donner plus de 50 millions d'euros, 225 millions d'euros sur 3 ans. Donc, ça fait un peu plus. Ensuite, il y a également Nike.
C'est le sponsor qui va partir également et qui va rapporter
l'équipementier. Et effectivement, ils cherchent à vendre les joueurs qu'ils n'utilisent pas, ce qui est normal. Ils utilisent pas Ressé Rodriguez, ils l'ont placé au Betis, bon, voilà, mais ils doivent quand même payer le complément de salaire. Ils utilisent pas Lo Celso, ils veulent les transférer, mais ça c'est logique, c'est cohérent, il y a rien de scandaleux là-dedans. Maintenant, effectivement, avec l'argent qu'ils récupèrent, et d'ailleurs le Real Madrid fait le même calcul, les joueurs qu'ils n'utilisent pas, ils les lâchent, ils font une économie sur la masse salariale, et derrière, ils peuvent racheter d'autres joueurs, ou en tout cas payer ceux qu'ils ont déjà et qui effectivement leur coûtent
cher. Rapidement, Rémi, juste, je voulais te dire que contrairement à Real, c'est-à-dire que le Real Madrid n'a pas fait des dépenses comme le Paris Saint-Germain qui a dépensé près d'un milliard d'euros. Or, le Real, depuis une certaine période, ne dépense rien sur les maisons.
Ils vont se rattraper cet été.
Oui, ils vont se rattraper cet été. On parle d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour Zidane. Hein, donc, ça reviendra bien. On peut quand même penser que avec Thomas Tuchel, il y a un projet, il y a une vision, il y a quand même quelque chose. Ça n'est pas couronné, on l'a dit. Il y aura au mieux un championnat et une coupe cette année. C'est vrai que c'est moins que les autres années. Même en Ligue des Champions, c'était très décevant. On verra bien. En tout cas, cette prolongation, elle est actée. On va aller de l'autre côté de la Manche pour voir s'il y a d'autres choses qui sont actées. D'un entraîneur à un autre, direction donc l'Angleterre, le nord de l'Angleterre, Manchester, où Solskjaer est parti pour rester. Arrivé en pompier mi-décembre, peu misait sur lui, sur le fait qu'il soit appointé plus loin que juin, et le voilà intronisé, confirmé donc, manager avec 3 ans de contrat. Est-ce que là, la question est la même? C'est logique pour vous. Allez,
c'est logique parce qu'il a repris l'équipe de Manchester qui s'était à la traîne, et franchement, il
19 décembre.
Oui, alors il a fait une série extraordinaire jusqu'au jour qu'ils ont perdu un match quelconque, mais je dis que ce qu'il a fait c'est extraordinaire parce que il connaissait pas l'équipe, il connaissait pas le groupe, c'était un groupe que moralement il était, ils ont viré l'entraîneur, que c'est un grand entraîneur Mourinho, il faut pas dire que c'est quelconque, et lui il est venu là sans prestige, sans rien de tout, presque 8 ans en Norvège il était, et personne ne s'est rappelé qu'il était Norvège. et franchement ce qu'il a fait c'est extraordinaire. Alors là je pense qu'il aura de l'argent pour refaire une équipe.
Oui, et je pense que là aussi
il a démontré et encore il joue la Champion.
Oui, on parle d'ailleurs de 150 millions d'euros pour recruter Khalilou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples, pour donner un peu plus de consistance à la défense des Red Devils.
L'un des tout meilleurs défenseurs du monde
d'euros. Ouais.
Moi, je deviens fou. Écoute,
j'ai pas dit que c'était signé.
Je vais te dire une chose.
Je comprends, Carlos.
Et le carton rouge, on peut pas le donner maintenant, non? Parce que la semaine dernière, j'ai lu dans un reportage que Bayern de Munich, il allait changer son effectif.
Oui, d'accord.
J'avais 220 millions à dépenser pour changer l'effectif.
Ouais, ça fait 2 joueurs.
Et toi, achètes 80 millions en arrière, elle.
Ouais.
Hernandez, 80 millions d'euros.
Ouais.
En arrière, elle.
Mmh.
80 pi.
Ouais,
je comprends plus rien, moi.
Moi non plus.
Et lui, il vient de me dire 150 pour un arrière central.
Ouais, mais
fût-il l'un des tout meilleurs du monde, mais ça semble.
On est face à des clubs qui ont des budgets de près d'un milliard. On est face à des clubs qui ont des budgets de près d'un milliard d'euros aujourd'hui par an, par saison, donc qui ont le potentiel d'acheter.
C'est pas du sérieux. Pour moi, c'est pas du sérieux.
Je vous propose d'écouter en tout cas Ole Gunnar Solskjær avant d'en dire quelques mots. Forcément, il en rêvait. On rappelle, hein, c'est quand même un joueur qui a passé 10 ans, 11 ans même à Manchester United, 96-2007, 366 matchs, 126 buts, une Ligue des Champions, 6 fois champion d'Angleterre.
Et tu sais une chose ?
C'est un gars du cru, non ?
Il n'a jamais été meilleur quand il rentrait en cours de match.
Et ben voilà. Et ben là,
c'était un joueur qui, quand il rentrait en cours de match, il changeait la physionomie du match. Mais quand il démarrait le match, il n'était pas si bon.
Il n'a jamais. Pour ça, il était habitué au banc de touche.
Il n'a jamais été meilleur qu'hier en conférence de presse.
Vous savez, quand les gens obtiennent un nouveau travail et qu'ils disent que c'est un travail de rêve, qu'ils ont toujours rêvé de jouer pour ce club ou de le manager, c'est plus vrai pour moi que pour n'importe qui. Ça a toujours été mon rêve ultime. Peut-être un rêve naïf, mais j'ai toujours eu ce rêve dans mon esprit d'avoir cette responsabilité dans cette grande et fantastique famille que représente un club. Et je suis tellement honoré et privilégié qu'on me donne cette formidable responsabilité de nous faire aller de l'avant.
Il a quelque chose qui déclenche de l'empathie, de la sympathie, Ole Gunnar Solskjær. Je dis pas ça parce que c'était rigolo de voir éliminer le PSG.
Non, parce que le prédécesseur, ne dégageait pas grande sympathie sur le banc de Manchester United.
Il n'en a jamais dégagé où que ce soit.
Ouais, il fait la tour des popotes maintenant pour essayer de trouver un autre banc pour s'asseoir. Mais non.
Non, c'est entraîné Guingamp ou Strasbourg, hein, ouais. On s'en ligue.
Non, ce qui est certain, c'est que Solskjær, il a un gros avantage par rapport à José Mourinho, c'est qu'il a été joueur dans ce club. Et Manchester United, c'est un club qui a une histoire extraordinaire et surtout un état d'esprit qui avait préservé pendant 25 ans Alex Ferguson, en faisant en sorte qu'il y ait toujours un effectif à peu près cohérent, à peu près uni, qu'il y ait un état d'esprit, qu'il n'y ait pas une énorme différence de salaire entre les meilleurs joueurs, les mieux payés et les plus jeunes, ou voilà, qui est vraiment une unité. Et Solskjær, il a été élevé dans cet esprit-là.
C'est un gars
du cru. Vous l'avez rappelé, Olivier, il avait 11 saisons au club. Même comme remplaçant d'ailleurs, souvent, moi j'étais à Barcelone lors de la finale de la Ligue des Champions 99, quand ils battent le Bayern de Munich, ils rentrent effectivement, ils marquent ce but incroyable, et puis avec Sheringham aussi, ils font basculer le match dans les arrêts de jeu. Donc c'est effectivement un garçon qui est complètement identifié à cet état d'esprit de Manchester United, donc il y a l'adhésion des supporters, et il y a l'adhésion des joueurs, parce qu'il faut rappeler une chose, Carlos le disait, il était en Norvège, oui, mais auparavant, il avait été entraîneur de l'équipe réserve de Manchester United, il avait d'ailleurs eu Pogba très jeune sous ses ordres. Et donc, il est parfaitement imprégné, parfaitement en phase avec l'état d'esprit de ce club. D'ailleurs, on voit bien, il est le coach numéro un, mais il parle de son staff. Et d'ailleurs, il va y avoir autour de lui ce staff qui s'est installé autour de lui après le départ de Mourinho. Eh bien, il va être reconduit, ils vont continuer à travailler ensemble. Donc, il y a un véritable retour de cet état d'esprit de Manchester United qui avait permis à ce club, sous la coupe de Ferguson, d'avoir tous les succès qu'il a eu. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Solskjær, avec cet état d'esprit retrouvé, avec des moyens financiers importants, eh bien, le club peut revenir vers les sommets du football européen.
Enfin, les moyens financiers importants, Manchester les a toujours eu. Et on se demande un peu ce qu'il en a fait ces dernières années.
Oui, ils n'ont pas toujours été bien utilisés, c'est vrai.
Le mot de Rémi, je dis bien le mot de Rémi sur la question. Solskjær, ça vous inspire ça, par rapport tout à l'heure, Tourelle, c'était pas bien. Est-ce que Solskjær, c'est bien ?
Il regrette Mourinho, lui.
Non, vous ne pouvez pas comparer Solskjær avec Mourinho. Mourinho, c'est un gros
flop à Manchester.
Bon, donne-moi ce que Solskjær a déjà gagné. Rien.
C'est pas le même âge, c'est pas la même carrière d'entraîneur pour le moment. Passons. Allez, parlez-nous de Solskjær.
Non, je vais dire, par rapport à Manchester United, il fallait reconstruire de toutes les façons. Quand vous perdez un éléphant comme Sir Alex Ferguson, et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas bien de durer longtemps sur un banc, parce que par la suite, après vous, c'est le déluge. Et on a vu le déluge qu'il y a eu après, sauf que Xavier Barré ne le rappelle pas aujourd'hui. Maintenant, quand on essaie de voir qu'il est aussi arrivé, il a déjà quand même aussi bah, rattrapé une petite défaite. Et c'était contre Arsenal. C'est-à-dire que après la pluie vient le beau temps, tout comme aussi après le beau temps vient la pluie. Donc certainement
en mars.
Donc ouais, pour l'instant, je parle français s'il te plaît. Et j'allie culture française et africaine, ce que tu ne peux pas faire. Donc pour l'instant, ce que nous sommes en train de vivre par rapport à ce monsieur, c'est qu'il a réussi à redonner une confiance à l'équipe. Reste maintenant que ce soit à long terme, parce qu'en même temps, j'ai souvent vu des entraîneurs, quand ils arrivent, ils sont très motivés, tout comme aujourd'hui, Xavier Barré ne parvient pas à admettre que Unai Emery a fait mieux que par exemple. Unai Emery a fait mieux que Wenger, puisque lorsqu'on essaie de voir ce qu'il fait aujourd'hui, ça donne. Ouais. Mais est-ce que à long terme,
c'est pas trop. Il vient d'arriver, Unai Emery. Comment vous pouvez dire qu'il a fait mieux que Wenger? Wenger est resté 20 ans. Il a été champion d'Angleterre.
Comment vous pouvez
dire? Unai Emery sera peut-être même pas Ligue des Champions.
Comment vous pouvez donc dire que Solskjaer est mieux fait que José Mourinho alors qu'il vient d'arriver, il n'a encore rien gagné.
Mais pour vous embêter.
Et c'est pour embêter Xavier Barré.
Allez, on va rester en Angleterre après avoir réglé son cas à Ole Gunnar Solskjaer. On est ravis, en tout cas, de le voir continuer. Liverpool-Tottenham, c'est dimanche. C'est le rendez-vous du week-end de notre ami Carlos Bianchi. Hein. On a bien checké l'heure. 15h30, temps universel. 17h30, heure de Paris. N'oubliez pas de changer d'heure, hein, Carlos, dans la nuit de samedi à dimanche. 17h30, heure de Paris. C'est quand même une belle affiche, Liverpool-Tottenham. Wow. Le premier contre le troisième.
Ça, sont des matchs. Parce que le Tottenham et son entraîneur, il faut qu'il passe le cap. Parce que toujours, c'est de l'espoir. Parce qu'ils jouent bien au football, ils sont une bonne équipe, l'entraîneur Pochettino, disons qu'il a une continuité dans les résultats, mais encore il n'a pas donné le coup qu'il faut donner pour se faire reconnaître tout ce, le bien qu'il a fait. Et je pense que ça, c'est un match, surtout à l'extérieur, que c'est beau à jouer.
Sadio Mané, Salah d'un côté, de l'autre Harry Kane. On a, c'est vrai. Alors avec des Spurs qui marquent un petit peu le pas. On pensait qu'ils allaient se mêler à la lutte pour le titre. Ils sont plutôt dans l'obligation d'assurer une qualification pour la Ligue des Champions.
On sort de la trêve FIFA et on sait que souvent ces périodes où les joueurs partent en sélection, ça rabat un peu les cartes. Donc Liverpool était en pleine forme avant cette trêve. Tottenham n'allait pas très bien. Les choses peuvent s'inverser parce que dans quel état seront les Sadio Mané et autres stars des Liverpool qui sont partis loin, on verra ça.
Ah, état.
Et puis Tottenham.
Sadio Mané, il a marqué, il n'était pas sorti avec le Sénégal, a priori tout va bien.
Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup joué, il faut voir s'il retrouve.
Quand on s'appelle Sadio Mané et qu'on voyage, on voyage en jet privé, on dort, c'est pas la classe éco quand on part en reportage avec RFI.
Contre le Mali, il a entré à la 67e minute, parce que le Mali menait le Sénégal, il a marqué directement et par la suite il a donné la passe décisive. Donc quelqu'un qui entre à la 67e minute, on ne peut pas dire qu'il a beaucoup joué, mais cependant on a vu qu'il avait une bonne condition physique, de la même façon pour Mohamed Salah. Donc quand je vois aujourd'hui, contrairement à Liverpool qui a souvent eu à chuter en fin de saison, parce que Klopp fait travailler ses joueurs durement pendant la pré-saison et pendant la première partie de la saison. Mais là, c'est Liverpool est en train de récupérer beaucoup de blessés. Ce qui signifie que ces blessés qui, par exemple, au stade Chamberlain, il n'a même pas joué. Donc, il est en train de revenir. Quand on essaie de regarder aussi par derrière, comme à la défense est bien stable. Et vous voyez actuellement les prestations de Van Dijk. Vous vous dites quand même que ce soit les Lovren, personne ne s'est blessé. Et tous ont la volonté de pouvoir aller jusqu'au bout de cette compétition, de remporter la Première Ligue. Donc moi, je me dis que lorsque je vois, c'est Liverpool qui est organisé au niveau de la défense et qui peut faire très mal à chaque contre-attaque, j'ai dit Liverpool peut aller au bout.
Enfin, quand même, Tottenham, ils sont très motivés, d'autant qu'ils vont inaugurer leur nouveau stade dans quelques jours. Et tout ça, ça donne une nouvelle perspective pour cette fin de saison. Moi, je mettrais une petite pièce pour Tottenham.
Quand même. Voilà enfin un sujet qui fait l'unanimité. Tout le monde a l'air de se dire, tiens, dimanche à 17h30, on se regarderait bien Liverpool-Tottenham à condition d'avoir la bonne chaîne.
C'est sport ici en France.
Oui, c'est le truc dont tout le monde parle, mais rarement bien et que personne n'a.
Oui.
Vous voyez, donc vous avez RMC Sport.
Alors, qui est-ce qui va le regarder?
Finalement, on n'a qu'à l'écouter, alors à la radio. Ah non, le réfi, il a tout.
Je l'ai, évidemment. Et...
Ah ben voilà, évidemment. Fais le malin.
Non, mais pour nos téléspectateurs en Afrique, ce sera sur Canal+.
Évidemment, et c'est ça qui compte, bien sûr, Canal+, Afrique. On les salue, tous nos auditeurs qui regardent, bien sûr, Canal+, en Afrique. N'oubliez pas d'écouter RFI avec, c'est pas mal aussi. Gonzalo Higuain annonce sa retraite internationale à 31 ans. Le natif de Brest, on l'oublie souvent.
Oui.
Brest, je port de pêche. Après 75 sélections, 32 buts, 3 finales, perdu. J'aime bien titiller un peu les Argentins. Ça fait plaisir, ils sont deux là. On rappelle les Argentins, la finale perdue, c'est 2014 hein, contre l'Allemagne.
Hein, la Coupe d'Amérique.
Et deux Copa América.
Ouais, pas vraiment perdu. Fois... La Copa América, c'était des matchs nuls. Et
C'est les, toutes les finales où Messi nous annonçait qu'il revenait plus puis qu'il revient quand même. Hein, c'est ça. C'est pour resituer un peu le truc.
Zidane, il a fait pareil.
Oui, une fois.
Bon, mais pourquoi tu ne parlais pas sur Zidane?
On se calme, monsieur Bianchi.
Ah oui, Zidane l'a fait pour venir gagner la Coupe, pas pour venir la perdre.
Oui, bah, il a perdu quand même.
Tu viens pour jouer.
Il a perdu. Alors, on écoute Gonzalo Higuain avant d'en dire deux mots. On l'écoute morose, plein de rancœur. Ouais. Il est à bout, Pipita, et il en a marre. On l'écoute.
Pour le plus grand bonheur de beaucoup de monde, mon cycle avec l'Argentine est terminé, comme l'ont déjà fait d'autres coéquipiers. Ces gens-là peuvent arrêter de se préoccuper pour savoir si je serai appelé ou non. Qu'ils s'occupent de ceux qui sont présents ou de ceux qui vont arriver pour le bien de la sélection. Que l'on dise que la sélection n'a pas atteint ses objectifs, c'est une chose. Que l'on dise qu'elle s'est fracassée, c'est trop. Se fracasser, ça aurait été de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde et non pas faire trois finales. En Argentine, on accorde plus d'importance aux buts que je n'ai pas mis plutôt qu'à ceux que j'ai marqués. Je pense aussi que les buts marqués durant des phases éliminatoires sont tout aussi importants que ceux inscrits lors d'un mondial.
Messieurs Ngono et Barret, je vais vous demander de vous éclipser quelques instants. Vous pouvez rester parmi nous, mais donnons la parole aux Argentins. J'ai vu arriver Carlos Bianchi en larmes à l'idée de perdre Gonzalo Higuain, son fils adoptif, son descendant, l'homme qui lui avait succédé chez les Argentins. Ça vous attriste ou vous n'en avez absolument rien à faire, comme la plupart d'entre nous?
Ce qui ne me fait pas plaisir, c'est parce que c'est un joueur qui n'a pas été aimé.
Oui, hein, et on sent que ça lui pèse. Hein.
Par les supporters et... Pas seulement lui, Agüero non plus, il n'est pas tellement aimé. Ils sont des grands attaquants tous les deux, parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient des grands attaquants. Mais quand tu ne gagnes pas, c'est un problème. Et l'Argentine, il a eu le malheur de perdre les finales, et ça fait longtemps qu'il ne gagne pas la Coupe América, il ne gagne pas la Champions, la Coupe du Monde. Alors ça fait de que le supporter, il est aigri, tu sais, il est agressif. Mais pour moi, Higuain, c'est un très bon avant-centre, un très bon attaquant.
Je pense quand même que ce qui a marqué un peu en tournant dans son histoire avec les Argentins, ça a été d'un côté sa prestation face à l'Allemagne au Maracana, où il a quand même une grosse
finale,
occasion qui n'arrive
et
pas à concrétiser.
Et Palacios aussi, là
oui.
Ou l'autre, et ils sont
et puis,
ratés.
Le fameux but qu'il ne marque pas contre le Chili à Santiago, à la dernière minute, il loupe une occasion énorme, et l'Argentine sort au tir au but juste après. Après, c'est vrai que c'est injuste, parce qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont rien gagné, et qui sont beaucoup plus populaires. Je pense à Tevez, par exemple, ou même à Riquelme, qui reste quand même beaucoup plus apprécié, alors qu'ils n'ont pas du tout réussi avec l'Argentine. Donc,
on peut
c'est
pas
vrai
dire que Messi est tout à fait réussi avec l'Argentine lui-même.
Mais Messi n'est pas aimé.
Je peux te dire qu'en Argentine, il est critiqué, Messi, hein. La critique, c'est la chose la plus facile à faire.
Ah, ça, c'est gratuit.
Comprends? Quand tu es devant le meilleur joueur de tous les temps, comme Messi, et tu le critiques parce qu'il n'a pas été champion avec l'Argentine, ce sont des choses incohérentes.
On rappelle, trois fois champion d'Espagne avec le Real Madrid, ça vous fait plaisir, hein, monsieur Ngono, 2007, 2008, 2012, deux fois champion d'Italie avec la Juve, 2017, 2018, il était au Milan AC en début de saison, il est maintenant à Chelsea,
excusez-moi, il a l'air d'aller un peu mieux. Il a marqué, c'est lui qui a marqué plus de buts en championnat italien dans l'histoire.
Mais oui, il a joué longtemps à Naples.
À Naples, il était meilleur buteur de l'histoire.
Un tout petit mot, Rémi, vous vouliez dire quelque chose sur Higuain?
Je voulais dire que c'est quelqu'un qui a aussi été mésestimé, et justement parce que en Argentine, comme Carlos est en train de le dire et même elle avait fait, quand vous avez déjà une équipe qui devient le Deportivo Messi, comme disait Diego Maradona, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, il faut se dire que à la Coupe du Monde, regardez comment l'Argentine s'est qualifiée avec tous les attaquants qu'elle avait, avec tous ces gens qui brillaient en Europe. Mais l'Argentine était la dernière attaque avec 19 buts pour aller à la Coupe du Monde de 2018. Dernière attaque. Donc, à une certaine période, ne nous dites pas que... Voilà, au dernier match. Donc, il faut arrêter de dire que c'est Higuain ou que c'est ci ou cela, parce que aujourd'hui, celui à qui on a confié les clés de l'équipe, c'est-à-dire Lionel Messi, il croyait qu'il allait faire ce qui se fait à Barcelone, mais malheureusement, comme le dit un proverbe africain, un seul bras ne monte pas à l'arbre.
Voilà. J'ai loupé le début, celui-là. Du coup, je le comprends pas.
Moi, le départ.
Seul bras ne monte pas à l'arbre.
Moi, le départ.
Ben, justement, ça me rappelle le cirque. On va au cirque. Ça me rappelle la piste aux étoiles. Hein. Ouais. C'était quoi, Roger Langène, quelque chose comme ça. Voilà, c'était formidable, en noir et blanc, bien sûr. Excusez-nous si vous avez moins de 20 ans. C'est la partie donc football circus pour terminer cette émission avant des cartons rapides. Le football circus, sa Coupe du Monde à 48 dès 2022, sa CAN à 24 dans 3 mois, sa nouvelle Ligue des Champions à 14 journées, on l'a dit, de phase de poule au lieu de 6. Ses matchs le week-end, sa finale s'est annoncée au plus offrant. Bah oui, comme ça. Bref, plus il y a de pognon et plus on s'en met plein les poches. C'est ça que ça donne un peu comme impression, non ?
Oui, oui et non. Oui, parce que je pense que c'est surtout l'intérêt politique, là, maintenant. Parce que, à force de diluer l'intérêt des compétitions, vous risquez peut-être de faire baisser l'intérêt de votre produit. Donc, je suis pas convaincu que ce soit simplement,
C'est ça
intérêt,
la grande question. Trop de foot, peut-il tuer le foot ?
Bien sûr, un intérêt business, j'en suis pas convaincu. En revanche, un intérêt politique, évidemment, puisque les présidents de confédération ou de la fédération internationale.
Quand vous multipliez les matchs, vous multipliez les gains autour des matchs, a priori. Et les per diem pour ceux
qui
les suivent.
Mais la qualité, au détriment de la qualité, parce que les joueurs, ils arrivent à un moment donné qu'ils savaient pas où ils sont, ils savaient même pas la compétition. Qui joue. Mais c'est là la folie. Oui,
bien
les
sûr.
Joueurs de football, c'est ça.
On l'a vu déjà en Europe il y a trois ans maintenant avec l'Euro en 2016, à 24.
Ça nivelle par le bas et pas par le haut.
Et franchement, y avait beaucoup de matchs qui n'étaient pas très intéressants.
Et là, Qatar, on va voir. Combien il va voir au Qatar ?
La Coupe d'Afrique,
c'est pas encore sûr.
On a eu une Coupe d'Asie des Nations au mois de janvier aux Émirats Arabes Unis à 24. C'était la première aussi à 24. Je suis pas sûr que c'était un grand progrès pour le football asiatique d'avoir.
On a l'habitude, depuis le début ou depuis des années, d'avoir des CAN à 16 équipes. On s'ennuyait, soyons clairs, les deux tiers du temps. À 24, ça promet.
Moi je ne trouve pas que...
Vous ennuyez pas, vous, à la CAN pendant le premier tour?
Non, moi je trouve que c'est une bonne chose.
Il est de mauvaise foi jusqu'au bout.
Parce que, attendez, vous allez dire, on va s'ennuyer, peut-être ça dilue un peu la qualité du football, mais...
Mais c'est une évidence.
Non, je vais vous dire. À la CAN, il n'y aura pas, par exemple, le Gabon d'Aubameyang.
Oui,
vous allez dire qu'ils ont
À la CAN,
il n'y aura pas le Togo d'Adebayor. Ah oui, d'Adebayor.
À ses 44 ans.
Voilà. Bon. À la CAN, il n'y aura pas l'équipe qui a joué et les finales et qui a été troisième, c'est-à-dire que le Burkina Faso.
Ça veut dire qu'on va se régaler. Le Mozambique, la Mauritanie, le Burundi.
Qu'on a vu. Si le Burundi a battu.
Non,
si,
pardon.
Si le Burundi a éliminé le Togo et quand on voit que le Togo n'a pratiquement créé
le Gabon.
C'est le Bénin a battu plutôt le Togo.
Le Burundi, le Gabon, donc
j'ai bien parlé du Bénin. Donc le Bénin, si on voit que le Bénin se qualifie, cela veut dire que ils ont bel et bien lui quand même à prouver pendant beaucoup de matchs. Et j'ai regardé d'autres matchs où j'ai vu que justement le niveau est en train de se niveler, de se remettre de telle sorte que ceux qui étaient très hauts, bien au contraire, c'est eux qui ont baissé le pied. Et maintenant, regardez par exemple que en 2016-2017, le premier au classement FIFA du football africain, c'était le Cap-Vert. Le Cap-Vert n'y va pas. Donc, pour vous dire aujourd'hui qu'on avait découvert le Cap-Vert à cette époque-là et le Cap-Vert a rechuté, les autres qui ont profité pour travailler, ils se sont hissés et on va les voir.
Avec impatience dans les radios foot pendant la CAN, vous nous expliquerez quel spectacle formidable on va y voir. Il me donnerait presque envie d'y aller dès le départ, Réfé. On va reparler de tout ça. Non, on est a priori un certain nombre d'observateurs majoritaires à imaginer que cette multiplication des équipes qualifiées, c'est un peu l'école des fans. Vous vous rendez compte que maintenant, en Afrique, il y a une équipe sur deux qui va se qualifier dans le monde. Bien sûr. On sera à 48, un pays sur 4 va participer à la Coupe du Monde. Et ça, c'est nivelé par le haut. C'est quand même difficile à faire croire. Ça vous inspire quoi, vous, l'ancien joueur ?
C'est un petit peu comme la Champions, comme la UEFA, ils sont procurés qu'ils aient plus de joueurs, des équipes qualifiées. C'est là le problème. Quand plus des équipes y a qualifiées, la qualité elle baisse.
C'est l'inverse, oui, mais... justement au niveau des clubs. La Ligue des Champions est de plus en plus élitiste puisqu'elle laisse de côté tout un tas de champions de petits pays en Europe. C'est un peu la même chose en Afrique.
Pour 2024, si on commence à jouer le week-end des matchs de Ligue des Champions, c'est nier les championnats.
Vous allez laisser de côté les championnats alors.
Ouais, ben c'est.
Et donc, ça veut dire quoi? 15 ou 16 alors, équipes voilà. qui ne joueront pas la Ligue des Champions vont devoir s'adapter les week-ends et jouer en semaine?
On risque d'aller un peu vers un calendrier de ce qui se passe pour le handball, où vous avez les championnats en semaine, en France, le mercredi, jeudi, et puis les matchs de Coupe d'Europe, qui concernent effectivement que 4 ou 5 clubs le week-end.
Et puis, sans parler de la réforme du Mondial des clubs, bref, qui va avoir lieu tous les 4 ans, et ça veut dire que toutes les deux cannes. Puisque ce sera à partir de 2021.
On peut ironiser, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut comprendre aussi qu'on est en face des puissances et d'intérêts très importants, et donc il est logique que chacun défende un peu son point de vue. La FIFA essaye de créer des compétitions internationales.
Ouais, en l'imposant en juin,
pour quelle raison il faut changer tous les 4 ou 8 ans, tout le temps.
Le fameux de l'histoire, ça reste l'argent. Et en fait, pour avoir suivi ces dossiers avec Alejandro Valente d'ailleurs à France Football pendant plusieurs années, on voit régulièrement arriver tous les 4-5 ans un projet privé de championnat. C'était déjà le cas dans les années 80, avec 90 avec le fameux Media Invest, un projet téléguidé par les Italiens. Donc ils arrivent régulièrement avec des projets de ligue privée en gros. Donc ils arrivent et en fait le but du jeu c'est de faire grimper l'UEFA au cocotier pour que les grands clubs récupèrent plus d'argent. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui. On a vu d'ailleurs Andrea Agnelli, qui est le patron de la Juventus, qui a dit qu'ils n'étaient pas favorables au projet de la FIFA, mais qu'en revanche, ils étaient favorables à un nouveau projet de l'UEFA. On voit bien où on veut nous amener.
Du moment qu'il y a de l'argent à ce sujet-là, les droits à l'international pour la Première Ligue vont passer les 4 milliards de livres sterling. Les droits nationaux, en revanche, baissent. Il s'agit de séduire le plus grand nombre, là-bas en Chine, en Asie, dans les pays où le football se développe, et finalement ceux qui sont à la maison, on s'en tape un peu. Allez, c'est l'heure des cartons.
Carton jaune,
un carton jaune.
Oulala, carton rouge
dans la confusion,
carton vert.
Rien à dire, nous dit Joseph Antoine Bell. Vous avez 30 secondes chacun. Rémi Ngono.
Midos Salgo de ma page Facebook Rémi Ngono officiel revient à ce que je disais tout de suite et donne donc un carton rouge à Sita Sangaré qui, bien évidemment,
président de la Fédération du Burkina Faso.
Qui a déclaré que Paulo Duarte a réussi la mission. Donc, vous vous rendez compte, la mission d'éliminer une équipe. Donc, finalement, comme le dit un proverbe africain, pour des sauts, même les échecs deviennent des succès.
Je ne comprends aucun de ces proverbes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. J'ai envie d'aller vers Carlos Bianchi pour son carton.
Moi, à Cardiff, rouge. Parce qu'il clarifie pas la situation et je pense que c'est une situation
sur le transfert de
Salah. Et je pense que là, il faut le clarifier le plus rapidement possible, soit la FIFA, la UEFA, il faut qu'il prenne les cartes comme il faut parce que c'est pas normal.
Réfé.
Oui, d'ailleurs, dans quelques jours, la FIFA devra demander des explications à Cardiff, car Nantes a présenté des documents assez consistants pour
le
défendre.
Le contrat a été signé, Cardiff ne veut pas payer.
Son point de vue. C'est très rapidement, carton vert au Burundi, qui a.
Oui, les Hirondelles.
Voilà, qui a réussi à se hisser en phase finale de la CAN et qui
un
donc.
Gros coucou à Bujumbura,
sera le troisième débutant au mois de juin en Égypte avec la Mauritanie et Madagascar.
La Tanzanie également, à 40
oui, mais,
ans.
Mais c'est pas la première
fois. Il n'était pas venu depuis 39 ans. On les salue tous, on les accueille, indépendamment de ce qu'on a dit sur le niveau de la CAN tout à l'heure, on s'en réjouit. Xavier Barret.
Oui, mais moi je vais attribuer un carton vert au Venezuela et plus précisément aux Vénézuéliens de la Vinotinto qui ont joué un match incroyable à Madrid contre l'Argentine, alors que dans leur pays, leurs familles sont soumises à des problèmes de privation de tout genre par le régime de Maduro. Et donc, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de courage de défendre les couleurs de leur pays dans ces conditions.
Double carton vert pour l'équipe de Radio Foot International. D'abord, à celui qui tire sa révérence tout court aujourd'hui, l'Australien Tim Cahill, à 39 ans, a annoncé qu'il raccrochait les crampons. 4 Coupes du Monde, 50 buts en 108 sélections depuis 2004. Et puis, carton vert aussi aux filles de Wolfsburg qui ont été éliminées en quart de finale de la Ligue des Champions féminines cette semaine par Lyon. Et sur les réseaux sociaux, eh ben, elles ont toutes une par une fait un petit message très sympathique pour souhaiter bonne chance au parcours des Lyonnaises pour la suite de la compétition. C'est pas les hommes qui feraient ça. Lundi, vous retrouvez la dame, vous passez un bon week-end. Vous n'oubliez pas de suivre Antoine Grenier et Cédric de Oliveira pour la finale de la Coupe de la Ligue demain. Merci à Laurence Salerno et toute l'équipe.